pensez que le diable se serait arrêté là, aurait dit « Bon, bah tant pis, j'ai perdu. Mon courage à vous, je vous laisse tranquille. » Alors, on ne sait pas, peut-être même qu'il y a eu des tentatives précédentes de la part du diable. On n'a pas forcément tout qui nous est cité dans la parole. Ce qui nous est cité et ce qui nous est utile et essentiel, comme le rappelait Jorgen tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les détails. Ce qu'on sait, c'est que Adam et Ève ont suivi sur le conseil du diable, donc ont mangé ce fruit et ont péché. Je suis persuadé que s'ils n'avaient pas péché à ce moment-là, le diable ne se serait pas arrêté là et aurait perpétuellement continué. Et s'il n'avait pas réussi d'une certaine façon, il aurait essayé une autre façon. On le voit bien notamment quand on parle de ce moment de tentation où le diable tente Jésus. Le diable ne lui propose pas juste une seule tentation. Il va essayer par plusieurs approches différentes. Il va même aller jusqu'à citer lui-même l'Écriture, puisque Jésus lui répond en citant l'Écriture, pour essayer justement de le faire chuter. À partir de là, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On oublie que Jésus est un être humain à ce moment-là, que Jésus il est né d'une femme, que bah, quand on l'a battu plus tard, il a saigné comme les autres. Et on a l'impression parfois, quand on lit les évangiles, que c'est plus un être humain tellement il est parfait. Mais on oublie ce côté humain. On oublie que bah, quand le diable vient le tenter, le diable sait comment il le fait. Il vient pas le faire n'importe comment, et notamment. Jésus a faim parce que ça fait quand même 40 jours qu'il jeûne. Alors si on vient vous tenter avec un de vos plats préférés sous les yeux, si vous venez de manger, bah, ça ne va pas vous faire grand-chose. Mais déjà, nous, après une ou deux journées de jeûne, on commence à lorgner sur tout ce qui passe, même si ce n'est pas un aliment qu'on aime habituellement. Alors imaginons bien après 40 jours. Le diable, malheureusement, est loin d'être bête. Et il va essayer toujours d'arriver par les chemins qui vont être pour nous les plus tentants. Le terme est le bon. Et Jésus, on l'oublie aussi, puisqu'on rappelle tout le temps que c'est le Fils de Dieu, oui, mais c'est un être humain. Il est comme nous. Il s'est abaissé dans sa condition divine pour venir en tant qu'un être humain. Et il a le même choix que nous. Le choix, Adam et Ève l'ont eu, le choix, on l'a nous aussi tous les jours. Et la parole nous enseigne aussi justement à faire le bon choix, à choisir la vie plutôt que la mort. Mais Dieu nous laisse le choix. Quelque part, même le choix, les anges l'ont eu, puisque le diable a fait le choix de s'éloigner de Dieu, puisque certains anges ont fait le choix aussi de le suivre. Donc on se rend compte quand même que Dieu a laissé le choix à toute sa création. Et Jésus, quelque part, a le même choix. Il pourrait très bien s'éloigner du plan prévu par Dieu, il pourrait très bien chuter, comme on a pu le faire, soit bah, sous les tentations du diable, soit pour d'autres raisons. Il ne l'a pas fait parce que justement, ce n'est pas juste un être humain et ce n'est pas un être humain comme les autres. Contrairement peut-être à d'autres religions, on n'est pas en train d'adorer un homme, mais on est en train d'adorer un Dieu. Et je me suis posé la question, est-ce que ce moment qu'on met tout le temps en avant comme la tentation du Christ, est-ce que c'est les pires tentations qu'il a eu à subir? Alors, n'étant pas moi-même Jésus, je ne peux pas me mettre à sa place et vous dire ce qu'il a subi de pire ou pas, mais je me suis mis à lire les évangiles en essayant de me dire déjà où Jésus était tenté, et Jésus est tenté à de très nombreuses reprises, que ce soit par les questions qu'on vient lui poser, que ce soit par les choix qu'on va mettre devant lui, on lui amène une femme adultère, on lui demande est-ce qu'on doit payer l'impôt, etc. Tous ces passages-là où on vient perpétuellement chercher l'erreur ou provoquer chez Jésus une mauvaise réponse, mais on pourrait dire c'est pas forcément le pire. Et quand j'ai lu, il y a un moment qui m'est apparu comme étant un peu plus important, j'ai envie de dire, en termes de tentation, c'est notamment au jardin de Gethsémané avant la crucifixion. Et je me suis posé la question, comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de prier. Il est en train d'angoisser. Plus que cela, même, il va jusqu'à suer du sang. Alors, je ne vais pas aujourd'hui lire un passage précis, puisque c'est rapporté dans plusieurs évangiles. Donc, je vais lire certainement des versets un petit peu comme ça, éparses, parce que tous les évangiles ne disent pas exactement la même chose et nous apportent aussi parfois des précisions par rapport à d'autres. Je vais lire déjà dans Matthieu 26 quelques versets. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Pourquoi j'ai choisi ce passage-là comme pour moi étant un des pires moments quelque part de la vie de Jésus? Je me dis, dans notre vie de tous les jours, à partir du moment où on commence à répéter plusieurs fois une prière, c'est que généralement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ou quelque chose qui peut nous effrayer ou autre. Et souvent, ben, on va, je ne sais pas dans vos habitudes, mais on va prier pour un repas, on va prier pour la journée, etc. Mais on ne va pas rester et prier avec insistance en répétition comme ça sans que ce soit quelque chose d'important pour nous. Notamment, on a peut-être vécu aussi ces situations d'angoisse où de nuit, on n'arrive pas à trouver le sommeil et on est là à prier sans cesse parce que le lendemain, il va y avoir peut-être une opération chirurgicale, peut-être un examen, un concours, peut-être qu'on a quelqu'un dans notre famille qui est malade et qui ne va pas bien. C'est ces moments-là où justement, on n'est pas bien, on est dans l'angoisse, dans la peur, dans le stress et on se réfugie dans la prière et on peut parfois passer des heures à prier. On se rend compte que Jésus est dans un de ces moments-là. Il sait très bien ce qui l'attend. Alors, bien plus que ce que nous, on peut imaginer quand le lendemain, par exemple, on a un examen, on angoisse déjà. Mais Jésus sait précisément tout ce qui va se passer. Il a cette connaissance de l'avenir que nous, on n'a pas. Et déjà, sans cette connaissance, on angoisse. Alors, en sachant qu'en plus, pour lui, ça va être ses derniers jours, ça doit être encore plus terrible. Le réflexe humain qu'on peut avoir et qu'on a tous, c'est la fuite. On fuit la douleur. Mettez la main sur une casserole trop chaude quand vous faites la cuisine, vous allez retirer votre main. C'est un réflexe humain et naturel et c'est un réflexe qui est justement bon pour le corps puisque le corps se protège en s'éloignant de la source de chaleur parce que c'est dangereux pour lui. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on se fait mal, généralement, on retire vite le bras, on s'éloigne de la source de douleur. C'est humain et pas juste en termes de « je me suis brûlé », mais même aussi dans la vie de tous les jours. Pourquoi on a autant de divorces? Pourquoi les gens se séparent et fuient les uns des autres? Pourquoi, quand il y a une difficulté, au lieu d'essayer de l'affronter ou essayer de la résoudre, souvent on va la fuir? Donc ça se passe mal dans un couple, et ben on se sépare. Ça se passe mal au travail, et ben on en cherche un autre, on démissionne. Ça se passe mal dans une église, pareil. Il y en a plein d'autres des églises, c'est pas grave, j'irai dans une autre. Quand ça se passe mal, généralement, quand il y a des sources de douleur, de souffrance, notre réflexe humain, c'est de fuir, de se séparer de tout ça. Parfois, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça peut être bien parfois de prendre un peu de distance, notamment si par rapport à votre travail, vous êtes en plein burn-out ou vous êtes harcelé ou autre. Je ne suis pas en train de vous dire « non, continuez, allez-y, etc. » Parfois, Dieu aussi nous ménage des temps de pause. De la même façon que là, Jésus, il est un peu dans un temps de pause. Il s'éloigne un petit peu, il se met à l'écart et il prend du temps pour prier. Il n'est pas encore en train d'enseigner une foule. Ces moments-là peuvent avoir du bon, mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous appelle à fuir perpétuellement. On n'est pas censé passer notre temps à fuir face au diable. On peut se mettre à l'écart, on peut avoir des temps comme Jésus, on peut se ressourcer, s'isoler, ça peut être bénéfique. Mais ce n'est pas ce qu'on est censé faire toute notre vie. Notamment si on reprend par exemple un exemple comme le roi David, il a fui devant Saül parce qu'il ne voulait pas l'affronter, parce qu'il ne voulait pas porter la main sur loin de l'Éternel. Il l'a fui à de nombreuses reprises, mais il n'a pas passé sa vie à fuir. Quand Dieu l'a appelé à régner, il n'a pas continué sa fuite dans le désert en laissant d'autres régner à sa place. Il a été et il a fait ce qu'on attendait de lui. Face à Goliath, il n'a pas fui. Face aux ennemis qui ont attaqué Israël, il n'a pas fui. Alors, il y a des moments où, oui, il s'est isolé, il s'est protégé. Il y a des moments où il a préféré fuir. Mais il y a des moments aussi où, avec Dieu, il a été affronté, il a eu la victoire. Si on est Jésus à ce moment-là, si on est angoissé, si au point de suer du sang, si on prie sans cesse, on est dans une situation où, clairement, en tant qu'être humain, on aurait envie de fuir. Est-ce que c'était facile pour Jésus de fuir à ce moment-là? Bien sûr. Notamment, on oublie que quand on vient l'arrêter, c'est un verset que je vais vous relire, Quand on vient l'arrêter, c'est dans Jean 18. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Même s'ils sont venus en foule avec des bâtons, des épées et je ne sais quoi, deux mots de Jésus, ils étaient tous par terre. À partir de là, clairement, Jésus fait ce qu'il veut. Il peut, comme à d'autres moments, passer au milieu de la foule. C'est arrivé qu'on a voulu lapider Jésus et que Jésus est passé simplement au milieu d'eux et personne n'a pu faire le moindre geste. Simplement parce que ce n'était pas le moment ou ce n'était pas la façon qu'avait prévu Dieu pour la fin de Jésus. Jésus aurait très bien pu, encore une fois, passer au milieu d'eux. Toute cette foule qui était venue l'arrêter était au sol et ne pouvait absolument rien faire contre lui. On peut repenser aussi à Élie quand on lui envoie 50 soldats pour venir le chercher et le convoquer devant le roi. Élie prie simplement, le feu du ciel descend et il n'y a plus de soldats. Ça arrive deux fois. Ça aurait pu arriver autant de fois qu'il avait voulu. Simplement, Élie faisait la volonté de Dieu et la troisième fois, quand Dieu lui dit, va et suis cet homme, il y va et il le suit. De la même façon, Jésus aurait très bien pu pulvériser tout simplement tous ses adversaires ou bien les laisser tous au sol et passer au milieu d'eux. Et échapper à cette situation qu'il souhaitait éviter. On le voit clairement dans ses prières. Il ne veut pas passer par là, mais il le fera parce que son Père le veut. Est-ce que c'est un des pires moments ou la pire tentation qu'on peut subir? Comment résister à une telle tentation? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, nous, on a quand même la chance, même si on peut subir quelques formes de persécution en France, de ne pas avoir notre vie qui est mise en danger. Mais imaginons dans des pays où la persécution est plus importante. Est-ce que quand on vient vous arrêter, quand on vient pour vous tuer, c'est le cas de Jésus, vous allez vous lever en disant, oui, c'est moi, je suis chrétien. Oui, je ne vais pas renier ma foi. Même si ça doit vous coûter la vie, même si vous devez pour cela être battu, torturé ou autre. Ce courage-là, il ne vient pas des hommes. Ce courage-là, il vient de Dieu. Et c'est ce qu'on est censé faire dans ces moments de tentation. C'est pas essayer de se dire, allez, je peux le faire. S'agit pas d'essayer de compter sur ses forces humaines, de compter sur son courage personnel, sur son expérience. Simplement, il s'agit de compter sur Dieu. Et dans ces moments-là, encore plus particulièrement. Notamment, on a le verset de Jacques 4,7 qui dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est le diable qui est censé fuir. Mais ça commence par soumettez-vous donc à Dieu. La prière de Jésus, comment Jésus passe cette épreuve, simplement il s'est soumis à son Père. Ça se lit dans les prières, dans les versets que je vous ai lus, et puis vous pourrez lire aussi dans les autres évangiles. Toutes les prières de Jésus sont tournées dans la soumission à son Père et dans l'obéissance à ce qu'il lui a demandé. Quand bien même c'est très difficile, quand bien même c'est quasi impossible, on pourrait dire humainement, parce qu'on ne peut pas réaliser ce que c'est, même si nous, on peut être confronté à la mort terrestre, là, on parle de porter le poids du péché, payer le prix pour l'humanité entière, c'est des choses qu'on ne peut pas appréhender, évidemment. Il se soumet à son Père et il va le faire. Et si on continue, il y a une autre phrase, moi, qui m'a semblé comme une tentation absolument horrible. Si on avance un tout petit peu dans le temps, Jésus est sur la croix. Et qu'est-ce qui se passe? On vient l'insulter, on vient l'injurier, on vient lui manquer de respect, etc. Ça, d'accord? Mais il y a cette phrase qu'on lui dit, que je vais vous relire, dans Matthieu 27. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Elle n'est pas horrible, cette tentation? Jésus est sur la croix. Donc déjà, il souffre physiquement, pas que physiquement, on l'imagine bien aussi. Ce peuple qu'il a aimé, pour qui il s'est sacrifié, est en train de l'insulter, et on lui dit, descends de la croix. Alors, dans ce que vous pouvez trouver comme prédication sur le sujet, il y en a qui parlent que Jésus n'est pas descendu et qui citent les trois clous. Alors, ce n'est pas biblique, mais ça fait partie, moi, des prédications que j'ai pu entendre. Et on dit que Jésus n'est pas descendu pour trois raisons. La première, c'est l'obéissance à son Père. La deuxième, c'est l'amour qu'il a pour les hommes. Et la troisième, c'est aussi parce qu'il a pris le péché. Parce qu'à ce moment-là, il porte le poids du péché sur lui. Et c'est aussi pour ça, quand il s'exprime, quand il dit « Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Qu'est-ce qui vient mettre une séparation entre Jésus et son Père à ce moment-là? C'est que il se charge de nos fautes, comme c'est écrit à plein d'endroits dans la Bible, notamment dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a pris ce péché à notre place. » On est sur une tentation. Évidemment, le plan du diable, c'est quoi? C'est d'aller contre le plan de Dieu, quel qu'il soit. Et le plan de Dieu passe par la croix et passe par la mort de Jésus à la croix. Donc, que veut faire le diable? Le faire descendre. Humainement, on est bien d'accord, si vous êtes en train de souffrir et qu'on vous propose une porte de sortie, généralement, vous allez tout faire pour l'accepter. C'est le principe de la torture qui a été utilisé dans, malheureusement, l'histoire humaine à de très nombreuses reprises. Le principe, c'est de vous faire souffrir jusqu'à ce que vous soyez prêt à tout accepter et à tout dire de façon à pouvoir sortir de ce moment-là. Il est en train de souffrir physiquement, il est en train de souffrir moralement, il est en train de mourir pour des gens qui sont en train de l'insulter. Et quelle est la réponse de Jésus à ce moment-là? On l'insulte, on le tue, sans raison. Quelles sont les paroles de Jésus à la croix et comment il répond à cette tentation? Là où nous, déjà, on n'aurait pas tenu peut-être 5 minutes sur la croix, là où nous, on aurait peut-être, en restant sur cette croix, répondu en insultant tout le monde aussi. Et je pense qu'il y a des tas de brigands qui ont été crucifiés, qui ont dû maudire la terre entière et insulter tous ceux qui les avaient mis là. Là où, humainement, on n'aurait pas eu une réponse adaptée, la réponse de Jésus, elle est quand même impressionnante pour nous et pleine d'amour. Jésus pardonne à tous ceux qui sont en train de lui faire ça. Plus que ça, il demande au Père de leur pardonner ce péché. Toutes les paroles de Jésus sur la croix, j'avais déjà fait une prédication sur le sujet il y a quelques années, on les connaît et elles sont toutes pleines d'amour. Il pense à sa mère qu'il remet à un de ses disciples. Il pense à tous ceux qui sont là, il demande pardon pour eux. Et jusqu'au bout, jusqu'à ce tout est accompli, il va faire la volonté de son Père. Alors quand on regarde ça et qu'on se dit, voilà, moi, mes tentations du quotidien, j'en suis loin. On pourrait se dire, je ne suis digne de rien du tout. Quand je vois ce que je peux subir et ce à quoi j'arrive, moi, à résister, je me dis... Il y a quand même un monde entre Jésus et nous, mais la parole nous encourage quand même à prendre Jésus comme modèle, à être ses imitateurs, comme l'apôtre le disait. Et ça peut nous rassurer aussi, parce qu'on voit quand même qu'on a un Dieu qui a été prêt à aller jusqu'au bout pour nous, quand bien même il savait très bien que nous, on n'est pas du tout prêt à aller jusqu'au bout pour lui. Pierre, qui avait dit plein de fois, « Moi, je me battrai, j'irai jusqu'à la mort s'il le faut », il renie 3 fois son Dieu simplement parce qu'il a un peu peur. On peut penser à tous ses disciples qui ont suivi Jésus des années, qui se sont tous enfuis. On peut penser aussi à tout ce qui se passe après, à ce manque de foi quand Jésus ressuscite, à cette incrédulité. On peut penser à Thomas notamment qui ne voulait pas croire que Jésus était ressuscité. Et quand on regarde tout ça, on se dit, d'accord, le chemin d'un chrétien, en fait, c'est pas juste le diable qui vient te voir au début, qui te tente un peu pour voir si tu tiens la route ou pas et qui va te laisser tranquille. Le chemin d'un chrétien, c'est une tentation perpétuelle, continue et diverse. Parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, et le diable va pas toujours venir du côté où on est bien protégé, mais il va venir nous attaquer là où on est faible. Si on repense aussi à l'armure du chrétien qui nous est décrite dans la parole, s'il nous manque une pièce, c'est là qu'on va être attaqué. Si vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qui est en armure entièrement, et puis qui n'a pas mis son casque, quelle utilité? Tout comme un chrétien qui serait paré de la foi, de la vérité, de la justice, de ce que vous voulez, mais qui n'a pas le casque qui était le casque du salut, qui n'a pas de salut, tout ce qu'il peut faire, c'est vain. À quoi bon aller combattre, à quoi bon aller à la guerre, si votre tête, qui est quand même un point vital du corps humain, hein, si on s'y intéresse un peu, si c'est le seul qui n'est pas protégé. Alors, c'est assez compliqué de voir notre quotidien et de se dire, bon, moi déjà, j'essaie de faire un peu attention à ce que je mange et puis je craque dès que je vois une barre chocolatée. Et j'ai un Dieu qui est au ciel et qui a été jusqu'à se faire insulter, se faire tuer pour rien, à notre place, et qui malgré tout a tenu bon pendant des heures et des heures. Et qui en plus de ça, a pardonné à tous ceux qui lui avaient fait ça. Tout comme nous, il nous pardonne tous ces manquements qu'on fait quotidiennement. Il faut se préparer aussi à savoir que la tentation va aller en augmentant. Le plan du diable, c'est de résister au plan de Dieu. Donc plus nous allons suivre le plan de Dieu, et plus on va être attaqué, et plus on va essayer de nous détourner de ce chemin. Il ne faut pas croire, comme on peut le lire, que Jésus a subi une tentation, c'est la tentation du Christ. Non. C'est peut-être une des premières, et encore, il y en a certainement eu d'autres avant sous d'autres formes. Le message que je voulais laisser aujourd'hui, c'était cette idée-là que on est tenté, on va l'être encore, et on va l'être peut-être même de plus en plus si on continue de faire et d'essayer de faire au jour le jour le plan de Dieu. Si on essaye justement, comme Jésus l'a fait, de pardonner à ceux qui nous font du mal. Si on essaye, comme Jésus l'a fait, de se soumettre au Père, dans la prière, dans la lecture de sa parole, et aussi dans le quotidien, dans ce qu'il nous demande, même si ça nous déplaît, même si ce n'est pas là où on veut aller, même si ce n'est pas ce qu'on veut faire. Parce que comme je le disais dans Jacques tout à l'heure, avant de résister au diable, c'est soumettez-vous donc à Dieu. C'est la base. Et dans tout cela, on a quand même un modèle parfait qui, quelque part, pourrait être pour nous, j'ai envie de dire, une source de... Comment dire ? Je cherche mes mots. On pourrait déprimer, on pourrait se renfermer en se disant « À aucun moment je serai capable de tout ça. » On pourrait rester à regarder notre condition humaine et à se lamenter sur notre propre sort. On pourrait rester défaitiste, c'est le mot que je cherchais. Et l'humanité sombre souvent dans le défaitisme et on le voit encore plus en ce moment quand on voit la situation actuelle. Mais on a un Dieu qui nous apporte la victoire. Alors, pas par nos propres forces, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a envoyé le Consolateur, comme il est appelé par Jésus, et il nous donne la force de résister à certaines choses. Et je peux m'étonner de voir que dans ma vie, j'ai pu dire non à certaines choses, alors que je suis tombé bien, bien plus facilement dans d'autres, et je me rends compte que les moments où on est avec le Seigneur, le moment où, comme Jésus l'a fait, on prend ce temps parfois de s'isoler, de prier, de se soumettre au Père, tout simplement. Ces moments-là, on est capable d'accomplir des miracles. Et les miracles, ça existe, on en vit tous les jours. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez vécu cette semaine. Mais Dieu est capable de tout, dans les petits détails comme dans les grands. Pour citer un petit détail, ça fait des mois que Ethan écrit des mails en écrivant Jérémie IE, et aujourd'hui, il a mis Y. Vous voyez, tout arrive. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans le quotidien, dans les petites choses, dans les petits détails comme dans les grands, on a un Dieu qui nous donne la force de le suivre et d'accomplir tout ce qu'on doit accomplir. Alors, c'était peut-être un peu sombre de parler de tentation, de parler de ces moments d'angoisse à Gethsémané, de parler de la croix, mais évidemment, on ne va pas rester sur une note sombre. Tout cela se termine comment ? Après la souffrance, après l'angoisse, après la mort, on a la résurrection, on a l'espérance, on a la joie, on a la victoire. Et sachez-le, au quotidien, même si on a l'impression de vivre des milliers de défaites, on a la victoire dans ce qui compte. On a la victoire sur le diable, sur le mal, sur le péché. Et ça, nous, on n'en était pas capables, mais on l'a fait à notre place. Et on a la chance et la grâce d'en profiter gratuitement. Et on sait quand même qu'on vit dans un monde où rien n'est gratuit. Sachons en profiter. On est dans une période un peu difficile. Je ne sais pas ce que vit chacun d'entre vous. On en a parlé un peu la semaine dernière au culte. Mais ce que je sais, c'est que dans ces périodes-là, dans les périodes où on a l'impression que tout va mal, nous, on arrive quand même actuellement au travail à cumuler des consignes sur les alertes attentats, des consignes sanitaires, etc. Et on a l'impression que tout s'empile les unes sur les autres. Toutes les choses s'empilent comme ça. On est dans un moment où peut-être on est tenté aussi de s'éloigner de Dieu, puisque s'éloigner physiquement les uns des autres, ça peut impliquer aussi qu'on s'éloigne de notre Père spirituel. Et pourtant, là, j'ai l'impression qu'on est parfois plus nombreux que ce qu'on est en présentiel. Et je me dis, même si la situation est difficile, même si les tentations sont grandes de passer du temps à faire autre chose que de prier et d'écouter notre Père, je vous encourage ce matin à prendre ce temps qui est nécessaire et qui est utile. Et même si on doit rester confiné encore 1 an et demi, 2 ans, on sait qu'on pourra rester fidèle et même à distance, à prier les uns pour les autres, à prendre le temps de chercher le plan de Dieu pour pouvoir l'accomplir.